Bienvenue, nous allons terminer le chapitre 4 de l'évangile de Jean aujourd'hui. On a vu Jésus parler à une femme samaritaine. On a vu qu'il faisait de l'évangélisation dans la rue. Certains trouvent que c'est pas correct de faire de l'évangélisation dans la rue. Jésus nous en donne l'exemple. Et on voit avec quel fruit. Donc je vous encourage à ne pas penser qu'il n'y a que l'évangélisation par l'amitié qui marche. C'est bien sûr important. Et ce qui est certain, c'est qu'il faut toujours que notre vie soit en accordance avec nos paroles si on veut espérer que notre témoignage porte du fruit. On a vu donc cette femme samaritaine qui est progressivement venue à la foi, à reconnaître que Jésus était le Fils de Dieu. Et puis là, on va voir un autre épisode. C'est en fait un autre miracle. Ce que Jésus, ou ce que la Bible, ce que Jean l'évangéliste appelle des signes. Un signe, c'est quelque chose qui nous indique une direction, qui nous parle d'une réalité que nous ne voyons peut-être pas tout de suite. Et le premier des signes dont il est question dans l'évangile de Jean, est-ce que vous en souvenez? C'était la transformation de l'eau en vin. L'eau en vin, c'était le premier signe qui avait touché, et on avait remarqué que c'était ceux qui étaient au plus près du Seigneur, ceux qui travaillaient avec lui, qui voyaient ces signes. Souvent, les gens qui sont loin de l'action se plaignent que rien ne se passe. En fait, si vous êtes dans l'action, vous allez voir qu'il y a des choses merveilleuses qui se passent, des conversions, des guérisons, des... Mais là encore, il faut pas rester loin de l'action. Le christianisme, ça n'est pas un sport de spectateur. On est dans une époque où on aime le spectacle, on aime voir les sports assis sur son canapé avec des bières et des chips, et on laisse les autres faire l'exercice. Mais on s'enthousiasme pour ça. On verra que l'enthousiasme, c'est une bonne chose. Et Jésus, on a vu que beaucoup de Samaritains avaient cru parce que cette femme samaritaine avait témoigné de ce qu'elle avait vécu auprès de Jésus. Ils sont venus d'abord par curiosité, puis ensuite, ils ont cru grâce aux paroles de Jésus. Il leur disait, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. C'est la foi qui vient de la parole de Christ. C'est Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, la parole. Et la parole vient de Dieu ou de Jésus-Christ, selon les manuscrits. Jésus, sur cet merveilleux résultat de son évangélisation, et tout ça c'est parce qu'il avait fait la volonté de son Père d'aller en Samarie. S'il avait écouté le conseil de ses disciples, ils auraient fait un détour pour aller de la Judée à la Galilée. Et là, nous allons lire ensemble les versets 43 à 54. Je lis dans la version second 21. Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien accueilli par les Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. En effet, eux aussi étaient allés à la fête. Jésus retourna donc à Cana en Galilée, verset 46, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaüm un officier du roi dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas ?» L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » « Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent « Ton enfant vit ». Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux et ils lui dirent « C'est hier, à 1 heure de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté ». Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Alors il crut, lui et toute sa famille. Jésus fit ce deuxième signe miraculeux après être revenu de Judée en Galilée. Amen. La question de la foi, c'est un mot, ce mot de foi qui revient 100 fois, F-O-I-S, la foi F-O-I, dans l'évangile de Jean. Vous vous souvenez que Jean nous dit pourquoi il a écrit cet évangile dans Jean 20, 31. On peut même aller lire le verset précédent, verset 30. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits, on verra qu'il y a 7 signes miraculeux, ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. L'importance de la foi. Il est dit par ailleurs que si tous les signes ou tous les gestes que Jésus a accomplis étaient décrits, on ne pourrait pas avoir assez de place pour mettre tous les livres qui décriraient ces signes. Alors, on peut penser qu'il y a peut-être une petite exagération littéraire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'aime beaucoup les livres. Et le plus dangereux, c'est lorsque quelqu'un vient me dire « Tiens, je déménage et j'ai quelques sacs de livres que je veux bien te donner. » Et vous verrez dans la salle verte, sous une table, il y a 4 ou 5 boîtes en carton remplies de livres que je dois trier. Mais imaginez que le monde entier ne suffirait pas à contenir tous les livres si ces livres décrivaient les actes de Jésus. Encore une fois, c'est pas un manque de foi, mais j'imagine que c'est peut-être une exagération littéraire. Mais ça signifie quand même que Jésus n'arrêtait pas de faire du bien autour de lui. Il allait et c'est ce qui nous est dit dans le livre des Actes. Il allait ici et là en faisant du bien. Et ça doit nous inspirer la plus grande confiance, le plus grand respect, le plus grand amour pour Jésus, de savoir qu'il était toujours prêt à aider. Il avait ce cœur de compassion qui nous est nécessaire si nous aussi nous voulons être utilisés par lui, le servir, faire sa volonté. Tout ce que nous faisons doit être fait, accompli avec le plus grand amour qui soit. S'il n'y a pas d'amour, nous sommes, comme le disera Paul, ou l'a Paul le dira dans 1 Corinthiens 13, nous sommes comme des cymbales qui résonnent. On fait beaucoup de bruit, mais ça ne sert pas à grand-chose en fin de compte. Et donc, on voit cet officier, le mot en grec, c'est le mot basilic, basilikos. On pense à la basilique du Sacré-Cœur. En fait, basilic, c'est le roi. Et une basilique, c'était une église digne d'un roi. Hélas, donc, c'était un officier du roi. Il était probablement un officier du roi Hérode le tétrarque, qui était la personne qui gouvernait la Judée et la Galilée à l'époque. Donc c'était un personnage important. On ne sait pas si c'était un païen, il est probable que c'était un païen. Mais juste avant ça, il est dit que un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Alors il y a une question de savoir quelle était la région, si c'était la Judée ou la Galilée que Jésus considérait comme sa patrie. On sait qu'il est né à Bethléem, donc ça c'était en Judée. Et puis qu'il avait il était parti en Égypte et puis il était revenu et il habitait essentiellement Nazareth, qui se trouve en Galilée. Mais on pense que c'est plutôt le fait qu'il, puisque c'est proposé comme une explication, le fait qu'il allait, il montait en Galilée, on pense que sa patrie, c'était, qu'il considérait que sa patrie, c'était la Judée. Et il avait été mal reçu là-bas, on ne croyait pas en lui, on en voulait à sa vie. Et ce verset est souvent honoré, un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. C'est quelque chose que Jésus cite deux autres fois. Je sais que personnellement, ça m'avait troublé ce verset lorsque j'avais pensé que je devais retourner en France, quitter les États-Unis où je vivais et où j'étais venu à la foi en Christ. Et j'avais à cœur d'essayer de faire quelque chose pour l'Évangile en France, soit en devenant membre actif d'une église, soit peut-être en commençant une étude biblique et voir si le Seigneur bénirait. Et je me disais, mais il y a des missionnaires qui viennent en France, qui n'arrivent jamais à se débarrasser de leur accent, mais ça, c'est pas grave parce qu'ils sont plus dans leur propre patrie, donc peut-être ils vont être très efficaces. Et on sait que c'est le cas, on a beaucoup d'amis, même dans cette église, des missionnaires qui viennent passer leur vie, vivre leur vie, donner leur vie dans un autre pays. Et je me disais, ça, ceux-là, ils ont la garantie parce qu'ils vont être honorés dans cette nouvelle patrie, en quelque sorte. Et puis, je me suis dit, mais en fait, il y a des gens comme Spurgeon, pas que je me considère à lui, bien sûr que non, mais des gens locaux qui ont pu être utilisés puissamment par le Seigneur ou être utilisés. Donc je suis venu à l'idée qu'en fait, d'abord j'étais pas vraiment un prophète, j'étais plutôt un enseignant. Donc j'en suis venu à l'idée que c'était bien d'être en France. Donc, mais je sais que certains disent il vaut mieux partir ailleurs. Et il y a une valeur, c'est vrai que quand on est de la culture, on connaît la culture, mais on peut être limité par cette connaissance de la culture. On fait des choses parce qu'on a été habitué à les faire. On avait parmi nous une évangéliste américaine, Joy, pour ceux qui l'ont connue, et elle utilisait le fait qu'elle était étrangère pour aller plus loin qu'un Français ne l'aurait fait normalement. Elle aimait aborder les gens avec un petit Nouveau Testament français. Elle leur demandait, vous parlez un peu l'anglais parce que je suis en train de lire ça et je ne comprends pas. Et ça marchait. Jamais un Français ne penserait aller voir quelqu'un en lui disant « Vous pourriez m'expliquer ce verset de la Bible ?» Donc tout ça, c'est relatif. Et en fait, ce qui compte, c'est pas des prescriptions qu'on interprète bien ou mal, c'est l'appel du Seigneur. Et de savoir, il vous donne la paix, il vous met quelque chose sur le cœur. Et tant que vous ne l'avez pas fait, vous dites « Je me demande si je ne devrais pas aller là ou là-bas. » Moi, j'ai déjà partagé que le Seigneur m'avait mis à cœur cette idée de venir en France, travailler professionnellement ou dans le cadre d'une église pour l'Évangile. Et j'étais pas vraiment sûr que c'était la volonté de Dieu. Est-ce que c'est pas toujours facile de reconnaître la volonté de Dieu? Mais le fait que c'était pas quelque chose que je recherchais personnellement, c'était déjà un premier signe. C'était pas une idée qui venait de moi. J'étais bien aux États-Unis, j'avais un bon job, une maison, une famille qui était en bonne santé, qui était merveilleuse, deux beaux enfants, une femme encore plus merveilleuse. J'étais bien. Et cette idée de venir en France, elle a commencé à faire du chemin dans mon esprit. Et c'était pas garanti, mais j'ai entendu un sermon par un dénommé Chuck Swindoll, un grand prédicateur américain qui a des programmes à la radio, un peu partout là-bas. Et il parlait d'Abraham qui était parti sans savoir où il allait, sans savoir pourquoi, mais il avait obéi à la voix de Dieu. Et ce prédicateur expliquait qu'en fait, il était parti sans savoir en faisant confiance à Dieu. Et pour moi, c'était... Alors encore une fois, je ne me comparais pas à Abraham, mais le prédicateur disait... Peut-être que vous aussi qui m'écoutez, vous avez dans l'idée de faire quelque chose pour Dieu, mais vous n'êtes pas trop sûr de ce que c'est sa volonté ou pas. Et il terminait en disant, les chaussures Nike, vous savez, les chaussures avec le swash, ils font cette publicité, just do it. Alors ça, c'est souvent pris comme une raison pour faire n'importe quoi, vivre dans le péché. Just do it, yeah! Et il disait en fait, est-ce que vous voulez, et c'est ça qui m'avait interpellé, il disait, est-ce que vous voulez arriver à un âge avancé dans la vie, 80, 4 ou plus, et là vous vous dites, je me demande bien ce qui serait passé si j'avais obéi ce que je pensais être un appel de Dieu. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, ouais, c'est vrai ça. J'arrive à 60 ans, 70 ans, et je suis toujours au travail pour la compagnie des téléphones dans l'informatique aux États-Unis. J'ai une grande maison, j'ai peut-être une piscine, des voitures, je voyage. Mais si j'ai ce sentiment, je suis peut-être passé à côté de ce que Dieu avait pour ma vie. Et pour moi, c'était un sentiment terrible. Et donc, ça m'a encouragé à me lancer. Et ce que je veux vous communiquer, c'est que si Dieu, vous avez le sentiment que Dieu veut faire quelque chose avec votre vie pour son royaume... Il le veut pour chacun de ses enfants, des chrétiens. Mais peut-être que vous avez un changement d'orientation à faire, un changement de lieu. Peut-être partir dans un pays étranger où vous serez un prophète bien reçu. Faites-le. Ne laissez pas le doute, le confort. Il n'y a rien de mieux que de faire la volonté de Dieu. Il n'y a rien de mieux qui peut vous donner la paix. Et ce qui est merveilleux, en quelque sorte, c'est que vous pouvez monter à l'arrière de la voiture. Quand j'étais gosse, on avait un ami qui était moniteur d'auto-école. Et pour nous, on vivait dans un quartier tranquille de Perpignan. Donc des fois, il mettait la voiture en marche. Et puis il descendait, il s'installait à l'arrière sans que personne ne conduise. Et pour nous qui étions enfants, c'était quelque chose de merveilleux. Mais l'idée, c'est que si c'est Dieu qui conduit votre vie, vous pouvez prendre du recul par rapport aux choix et aux décisions et laisser Dieu vous guider, laisser Dieu prendre des décisions difficiles. L'avantage, c'est que quand les choses ne vont pas bien ou que ça devient très difficile, vous pouvez lui dire « Écoute Seigneur, c'était pas mon idée, il va falloir que tu interviennes. » Et j'ai fait bien souvent. Seigneur, c'était pas mon idée d'avoir à gérer une église, même d'avoir une église. Je me souviens lorsque je prenais des cours à l'école biblique à Seattle, dans notre église, il y avait tout un programme mis en place. Et une fois, le pasteur nous avait demandé, si vous étiez le pasteur de cette église, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Et dans mon esprit, c'était inimaginable que de devenir pasteur, surtout pas, je ne savais pas ce que ça pouvait représenter. Et puis je vois que le Seigneur a le sens de l'humour parce que me voilà 30-40 ans plus tard, bientôt en train de transmettre une église à mon fils. Donc tout ça pour dire, il n'y a rien de mieux que de faire la volonté de Dieu, que ce soit dans votre patrie ou dans une patrie lointaine. Amen. Jésus, on revient au texte, j'ai fait une longue diversion, là je m'en excuse. Jésus retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaüm un officier du roi dont le fils était malade. Cet homme se trouvait à Capernaüm et qui est sur les bords du lac de Tibériade, le lac de Galilée, au nord. Cana, c'est à peu près à 20, trentaine de kilomètres, 4 heures de marche, que cet homme a fait. Il avait accès au roi, mais ce n'est pas le roi qu'il est allé voir dans sa situation. Il avait entendu parler de ce faiseur de miracles, Jésus, et il est allé le trouver. Et ça, c'est quelque chose aussi, lorsque les choses vont mal, vous pouvez parler à vos amis dans leur vie, vous pouvez parler à leurs amis de l'amour de Jésus, de sa réalité. Ils vont être réceptifs parce qu'ils vont réaliser qu'en fait, ce n'est pas auprès de la sécu, ce n'est pas auprès de leur médecin, ce n'est pas auprès de leurs amis qu'ils vont trouver la solution à un problème de santé, par exemple, ou d'autres problèmes. Alors, il ne s'agit pas de profiter du malheur des autres pour leur parler de Dieu, mais de réaliser qu'en fait, vous avez la solution à leurs problèmes. Et animé de compassion, vous pouvez leur dire, est-ce que tu as jamais pensé que Jésus est réel et qu'il t'aime et qu'il veut t'aider? Et souvent, les gens vont être réceptif, comme cet homme prouve qu'il l'est maintenant. Il alla le trouver, il alla trouver Jésus, le pria de descendre guérir son fils. Et l'expression, ça veut dire qu'il ne l'a pas fait qu'une seule fois, il est revenu plusieurs fois, même si Jésus n'avait pas l'air de répondre tout de suite. Pourquoi ? Parce que la situation était critique. La situation était terrible pour lui. Toute évidence, il aimait beaucoup son enfant, son fils, Et l'idée que cet enfant puisse mourir, quelque chose qui le retournait complètement à l'intérieur. Verset 48, Jésus répond, et on a déjà vu des réponses de Jésus à des gens qui sont en recherche, et des réponses qui ont l'air un peu brutales. Comme lorsque cette femme syrophénicienne demandait à ce qu'il lui donne, qui était prête à prendre des miettes de la table de Jésus. Jésus lui a dit, mais c'est les chiens qui viennent prendre des miettes comme ça. Mais souvent, c'est là, on n'a pas l'enregistrement, on n'a pas le MP3, on n'a que le PDF, on n'a que le texte. Et dans le PDF, dans le texte, il manque les inflexions, il manque les signes du visage, les petits sourires. Et donc Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas. Jésus a l'air de s'impatienter avec tous ces hommes et femmes qui lui font confiance lorsqu'ils voient des miracles se passer devant eux. Mais on va voir que la foi, ça va au-delà de ça. L'officier du roi, on ne sait pas, il est question d'un certain Chouza dans le livre des Actes, qui était à la cour du roi, dont la femme était devenue chrétienne. Mais peu importe, cet homme qui avait des relations très proches avec le roi lui demande « Seigneur, Kurios ». C'est un titre qui normalement était réservé à l'empereur. Ça montre qu'il avait déjà une certaine foi en ce faiseur de miracles, à savoir que c'était un faiseur de miracles qui faisait vraiment des miracles. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, les gens nous mettent en question l'identité de Christ, l'identité qu'il était capable de faire, la capacité qu'il aurait pu avoir de faire des miracles. Mais à l'époque, ses ennemis comme ses amis le reconnaissaient. Ce n'était pas quelque chose qui était à décider, le fait que Jésus était un faiseur de miracles. Alors on sait que Jésus lui-même dira qu'on peut faire des miracles avec la puissance de l'ennemi. Satan est un ange de lumière qui a des pouvoirs et qui peut simuler et accomplir ce qui semble être des miracles. Mais peu importe, c'était cette question de Jésus montre que Jésus s'impatiente lorsqu'on le cherche pour ce qu'il peut faire au lieu de le chercher pour qui il est. Et ça commence, c'est bien de commencer par ça, c'est pour ça que Jésus le permet. Mais il veut que notre foi grandisse, où ce qui nous attache à lui, ce n'est pas ce qu'il peut faire pour moi, c'est simplement qui il est, le Fils de Dieu qui m'aime au point de mourir pour moi. Alors, encore une fois, on associe Jésus est quelqu'un de formidable parce qu'il est mort pour moi. Je me souviens lorsque j'étais pas encore chrétien, j'étais déjà allé, on avait été invité à l'église de Calvary Chapel à Seattle par ma belle-sœur et mon beau-frère que certains connaissent, Mike et Molly, qui sont venus animer une retraite il y a 2 ou 3 ans maintenant, en octobre à Saint-Martin. Ils priaient pour nous. Ils nous avaient emmenés une fois pour Noël à l'église. Et pour moi, c'était un choc culturel. J'avais l'habitude du prêtre catholique. On voyait même pas son visage. Il était toujours tourné vers l'autel, avec des costumes qui changeaient suivant dont la couleur changeait avec les saisons. Pâques, les rameaux, les carêmes, etc. Et là, je voyais un pasteur qui avait une barbe, qui jouait de la guitare, qui chantait, qui parlait librement, pas avec des... Et ça, c'était... Je disais, mais c'est un peu Hollywood, tout ça. Mais en fait, il y avait quelque chose de véritable, de vrai, une simplicité qui faisait tomber toute la religiosité des religions. Et ça m'avait interpellé. Et peu de temps après, j'ai eu un petit accident en me garant sur un parking, plutôt en repartant d'un parking où je m'étais garé, en reculant. J'avais touché une voiture qui était derrière moi, assez proche. J'étais sorti, j'avais regardé, et tout l'arrière de la voiture était complètement enfoncé, embouti. Et je savais que c'était pas moi qui avait pu faire ce genre de dégâts. Et donc j'ai décidé de repartir en disant c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas grave. Sauf qu'il y avait des gens qui ont entendu que j'avais touché la voiture, qui ont vu la voiture, qui ont pris mon numéro, qui ont appelé la police. Et peu de temps après, j'arrive à la maison. J'avais été chercher des doubles de photos de Tonio et Sébastien pour envoyer à leur grand-mère à Antibes, chez Bartel Drugs, pour ceux qui connaîtraient. Et je dis à Nancy, c'est un peu bizarre, j'ai frappé légèrement une voiture et je suis reparti, mais je me demande, j'ai vu que des gens avaient l'air de prendre mon numéro. Et peu de temps après, je vois la lumière d'une bleue, des éclairs bleus devant, sur le mur, un grand bong 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 à la porte. Un gros policier baraqué qui me dit « Vous avez le droit de rester silencieux, tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous » en anglais. J'apprenais l'anglais, donc j'apprenais du vocabulaire. Et en fait, le gars a dit que j'avais commis un délit de fuite après un accident. « Hit and run ». C'est un nouveau mot que j'ai appris. On frappe et on court. Et donc j'étais un peu paniqué. Il m'a dit, voilà, je vous donne ce papier, vous viendrez et on vous appellera. Et j'ai dû comparaître devant le juge. Je me demandais si je... Alors, c'était pas un crime, c'était un délit, mais c'est pas bon d'avoir ça sur son casier judiciaire. Surtout qu'à l'époque, je me disais peut-être je devrais demander la nationalité américaine. Là, je me disais peut-être qu'on va me renvoyer en France, hein. On veut pas de chauffards ici. Et le jour de l'audience devant le juge arrive. Et là, je connaissais pas vraiment encore Jésus, mais j'avais dit Jésus, si tu es là, fais quelque chose, aide-moi. Et l'audience avait commencé, le juge qui était une femme avait l'air très sévère. C'était pas des crimes très sévères qu'elle jugeait, mais il y avait par exemple un jeune qui avait conduit sur le terrain de foot de l'université avec sa voiture parce qu'il était un peu bourré. Et vraiment, elle lui avait collé le maximum, c'était... un mois de travaux pour la communauté et une amende de 500 dollars. Et puis un autre cas est jugé. Nancy était assise, moi j'étais au premier rang. Nancy était à la fin, était derrière au loin. À un moment, je me tourne vers elle et elle me fait ce geste. Quel encouragement! Et donc arrive mon tour. Mr. Pierre Patrick Nanny. J'avais embauché un avocat. Ça coûtait 300 euros, c'était, ou 300 dollars, c'était une grosse somme, juste au cas où, pour éviter qu'on m'empêche de, peut-être un jour de devenir citoyen américain, que je ne suis toujours pas, j'ai pas à cause de ça, mais... Et là, l'attitude de la juge change complètement. Je ne sais pas si elle était sensible au charme de mon accent français... Mais elle me dit, ah oui, 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 je comprends, oui, je vois ces parkings en épi dans les zones, dans les centres commerciaux, des fois il y a à peine de la place de bouger. En fait, elle me défendait. Il faut dire que l'autre personne était pas assurée. On était perçu à des Nancy et moi qu'il était sous lorsqu'il nous avait parlé le soir avec le gros policier. Mais toujours est-il qu'elle m'a dit, c'est bon, il n'y a rien. C'était un grand soupir de soulagement. Et là, je me suis dit, peut-être que Jésus est réel. Alors, on demande quelque chose, on tombe émerveillé de ce qu'il fait, ce qu'on lui demande, mais il veut que ça aille plus loin. Qu'on l'adore pour qui il est. Revenons à notre brave officier. L'officier, comme nous, il a déjà pensé comment Dieu doit agir ou comment Jésus doit agir. Il pense qu'il doit être sur place et il pense qu'il doit aller là-bas tout de suite, sinon ça ne va pas marcher. Et nous, souvent aussi, lorsqu'on prie, on impose un peu des figures à Jésus ou à Dieu. On lui dit, si tu veux agir dans cette situation pour laquelle je te prie, il faudrait d'abord que tu fasses ceci, tu règles ce problème financier, que la personne se repente, que la police soit d'accord. On fait tout un scénario. Et Jésus lui dit, c'est bon, c'est fait. Tu peux retourner, ton fils vit. Et là, il est dit que cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. La foi vient de ce qu'on entend, la parole, et la parole vient de Christ. Ça, c'est une autre dimension dans la foi. D'abord, il y a une foi qui est basée sur la réputation de l'autre. C'est comme une foi légère. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce que tu peux guérir mon fils? Maintenant, il passe à une foi en la parole de Jésus. Et ça, c'est très important dans nos vies de mettre notre foi dans la parole de Christ. Seul problème, c'est que ça sous-entend qu'on connaisse la parole de Christ. Ce n'est pas un problème, ça veut dire qu'il faut connaître, il faut lire la parole, il faut la méditer, il faut l'utiliser dans notre vie pour encourager, pour nous encourager nous-mêmes, pour reprendre les autres ou nous-mêmes. Il a cru et il s'en alla. Alors il y a un petit débat pour l'heure qu'il était, parce qu'il va rencontrer ses serviteurs qui montrent que c'était encore une fois un homme puissant qui avait un statut social très important. Il avait des domestiques, des serviteurs qui lui disent, qui confirment la parole de Christ, ton enfant vit. Et là il leur demande à quelle heure ça s'est passé. Donc il y a un petit doute. C'est peut-être juste une coïncidence. C'est comme moi, peut-être que cette juge, c'était une coïncidence ou c'était mon accent charmant qui l'a touché. Mais il dit, c'était hier à 1h de l'après-midi que la fièvre l'a quitté. C'est en fait, il est dit, la septième heure, et suivant que l'on pense que c'est un horaire romain ou un horaire juif, ça peut être une heure de l'après-midi ou 7 heures du soir. Et l'idée, en fait, c'est que c'est seulement le lendemain qu'il va, puisqu'il est dit que c'était hier. Donc c'est seulement le lendemain que cet officier est allé voir si son enfant allait bien. Alors, on pense qu'il était très impatient de le savoir, mais qu'il n'avait pas voyagé la nuit. Donc on pense que c'était plutôt 7 heures du soir, lorsque Jésus lui a dit « Ton enfant vit ». Toujours est-il qu'ils font le rapprochement, et puis ils voient que c'est au même moment où Jésus a parlé. Une autre supposition ou pensée que l'officier avait, c'est aussi que la guérison allait se passer progressivement. Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux, pas à quelle heure il avait été guéri, mais ils lui disent c'est à cette heure exacte que la fièvre l'a quitté, qu'il a été guéri. Encore une fois, on présuppose des choses dans l'action de Jésus ou de Dieu, on ne lui laisse pas toute la liberté et il faut s'en méfier de laisser Dieu être Dieu et nous surprendre à la façon dont il agit. Et le Père, verset 23, reconnut que c'était bien à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Alors il crut, lui et toute sa famille. Jésus fit ce deuxième signe miraculeux après être revenu de Judée en Galilée. Là, il dit qu'il croit, on dirait qu'il passe à une autre étape de foi. Il est passé d'une foi curieuse à une foi dans la parole, à une foi dans le résultat, et maintenant il croit. Il croit à la façon de Jean 20-31, à savoir que il croit que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, il a la vie en son nom. Au point qu'il en parle autour de lui, qu'il crut lui et toute sa famille. On a d'autres passages dans les évangiles où il y a un événement qui fait que quelqu'un croit et toute la famille va croire. Dans le livre des Actes, il est question du geôlier ou la prison où Paul était emprisonné. Paul et Silas, lorsqu'ils ont été libérés, il est dit que le geôlier a cru et toute sa famille a été sauvée. Paul a dit que toute ta famille serait sauvée. Alors je crois qu'il faut se garder de dire que si on est sauvé, toute notre famille va être sauvée automatiquement. Ça serait formidable et ça doit être notre souci, notre prière. Mais dans ce cas-là, ça s'est passé et c'est merveilleux lorsque toute une famille vient à Dieu. Donc c'est un encouragement pour nous à prier lorsque nous sommes peut-être le premier d'une famille ou lorsqu'il y a encore des membres dans nos familles qui ne sont pas venus à Christ pour lui faire confiance qu'il est le Fils de Dieu et qu'en lui on a la vie éternelle, le Messie, le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas nécessairement automatique. On voit que là, il a témoigné auprès de sa famille. Et une autre façon de voir tout cet épisode, et même tout le chapitre de Jean 4, c'est au sujet du témoignage et de l'influence qu'on peut avoir dans nos vies. Jeudi dernier, on finissait d'étudier 1 Jean, et on a dit qu'en fait, avant de parler aux gens de Dieu, il fallait parler à Dieu de ces gens. Autrement dit, avant d'essayer d'annoncer l'évangile à des gens, que ce soit de la famille, des collègues, des gens dans la rue, il est important de prier Dieu pour qu'il travaille le cœur de ces gens. Et ça fait toute la différence lorsque Dieu a labouré, lorsqu'il a mis quelque chose, une soif dans le cœur des gens. On va être émerveillé de la façon dont les gens sont attentifs, dans la façon dont ils reçoivent les informations qu'on veut leur donner au sujet de Jésus. Une des premières façons dont on influence ceux qui nous entourent, notre monde, petit ou large, c'est d'abord par la prière. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus nous disait de prier pour des ouvriers dans la moisson. Et Jésus peut, lorsqu'on prie cette prière, Jésus peut envoyer des ouvriers auprès de vos proches, auprès des gens pour lesquels vous priez. Nous prions pour notre fils qui n'est pas encore au Seigneur à Paris. Et j'ai déjà figuré comment ça pouvait se passer, comment quelqu'un qui habite pas loin de là pouvait venir. Mais ça, c'est à laisser à Dieu l'organisation des solutions. Nous, ce qu'il faut faire, c'est prier. Les gens sont aveuglés. C'est un peu comme une cataracte spirituelle. Ils ne voient pas. Il faut qu'il y ait une opération chirurgicale par le Saint-Esprit en réponse à la prière. Une deuxième façon d'influencer notre monde, c'est en témoignant directement. On a vu avec la Samaritaine qu'elle est allée voir les personnes qui la connaissaient comme une femme de mauvaise vie en leur disant « Venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et ils viennent voir. Alors peut-être que certains, c'est une plaisanterie, peut-être qu'il y en avait qui avaient peur que Jésus ait révélé certaines des choses qu'eux avaient fait avec elle. On sait que c'était une femme de mauvaise vie, mais elle témoigne directement. Et ça, c'est toujours quelque chose qu'on doit faire. Si on attend que les gens soient surpris par notre gentillesse, par notre grande bonté, et qu'on ne leur dit pas que ça vient, qu'on est animé par l'amour de Jésus, ça ne va pas les amener nécessairement à Jésus. Plutôt, très rarement, pour ainsi dire, presque jamais. Il faut parler avec notre bouche. Après, on le fait avec notre exemple auprès de nos relations. C'est intéressant de savoir que 85% des personnes viennent à Jésus grâce à des relations personnelles avec des chrétiens, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'entourage, au travail. Moi, j'ai été touché par un membre de ma famille et aussi beaucoup de prières qui nous touchaient. On peut influencer le monde aussi par notre foi. Lui, il a exercé une grande foi en ne partant pas la nuit. Peut-être que c'était trop dangereux, mais il avait sans doute des hommes avec lui. Notre foi est importante pour toucher les gens autour de nous. La façon dont on réagit aux épreuves de la vie, alors c'est pas toujours facile et des fois on réagit mal, mais ça parle très fort. Et puis, une autre façon d'influencer notre entourage, c'est par notre enthousiasme. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la chaîne L'Équipe. Je crois que c'est la chaîne numéro 23 sur la Freebox. 21, il y en a qui connaissent. Hein. Il faut prier pour un gars qui s'appelle Johan Rioux. C'est un commentateur sur cette chaîne. Il faut prier pour qu'il vienne à Christ parce qu'avec son enthousiasme, il va faire exploser le royaume de Dieu en France. Si vous ne le connaissez pas, tapez Johan, Y-O-A-2-N, Riou, comme le ruisseau, R-I-O-U, Riou. Et regardez une vidéo de lui en train de commenter un match de foot dont on ne voit pas l'image. Il a ma coupe de cheveux, il est un peu plus gros, mais il a un enthousiasme du tonnerre. J'ai regardé la fin du match Ajax-Tottenham après notre réunion de prière. C'était encore 2-0 pour l'Ajax. Mais Johan Riou était pour Tottenham. Il était là. Et c'est drôle parce qu'on ne voit pas l'image du match. C'est juste lui en train de parler. Oh oui, ça y est, une passe. Oh là, ça chauffe là. Je crois que ça va y être. Oui, oui. Il l'a fait trois fois. À la fin, j'ai cru qu'il allait avoir une crise cardiaque. Mais je me disais, en fait, c'est comme ça qu'on devrait parler de Jésus. Les gens ne peuvent pas le voir. Ils ne le connaissent pas. Mais nous, on le voit. On voit les matchs en direct, là. On voit tout ce qui se passe. Et si on avait un centième de l'enthousiasme qu'il a pour Tottenham, la France deviendrait, se remplirait d'églises, de chrétiens. Donc, prions pour avoir cet enthousiasme. Et on peut supposer que le fruit de toute sa famille, c'est beau aussi de savoir qu'un père qui se convertit, c'est souvent la famille qui se convertit. Puis, Seigneur, on te remercie pour ta parole. Aide-nous à être des hommes remplis de Dieu, des enthousiastes, c'est ce que veut dire le mot, Seigneur, pour pouvoir témoigner autour de nous, pour pouvoir toucher les gens, pour que une foi intellectuelle devienne une foi personnelle, une foi sur laquelle on base notre vie. Et Seigneur, on veut te remercier parce que tu as montré le plus grand des engagements en venant mourir pour nos péchés, Seigneur. Aide-nous à nous recueillir maintenant, à te demander pardon pour nos péchés, sachant que tu nous pardonnes toutes nos iniquités par le sang que tu as versé à la croix. Aide-nous à nous rappeler ce que tu as vécu en mourant, en te préparant à la mort le soir de la veille de ta crucifixion. Seigneur, touche-nous, sois béni, Seigneur. Amen.